Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Vincent Millet. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Donc, Vincent, je suis membre du conseil d'administration d'ISACA Montréal depuis plusieurs années. Donc, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Oui, c'est ça. On a eu l'idée de faire au moins plusieurs épisodes sur les articles qui apparaissent dans le ISACA Journal, qui justement sont très intéressants en cyber et vont alimenter la réflexion. Puis on va commencer avec le premier qui est l'importance d'une identité numérique au niveau national. Je vais te laisser présenter le sujet, puis ensuite on va s'amuser avec ça.
Absolument. Donc, le contexte de l'article, en résumé, essaie de démontrer l'importance d'avoir un système d'identité numérique national pour, mousser l'économie, pour faciliter les transactions avec les entités gouvernementales, mais aussi des organisations en général, et évidemment de protéger la sécurité des citoyens en même temps. Donc, c'est la prémisse de base de l'article.
Oui, puis c'est ça, puis c'est intéressant parce qu'on est dans un univers qui, depuis le confinement, depuis les deux dernières années, a été énormément numérisé en quelque sorte. On a vraiment basculé de l'autre côté. Enfin, pour certains, diront que ça l'a obligé les organisations et le gouvernement à faire le geste. Cela dit, au Québec, entre autres, on l'avait commencé avant, puis il y a d'autres pays aussi, mais c'est quand même, on est dans un univers où cette fluidité-là est importante, puis les bénéfices de l'identité numérique vont être de plus en plus tangibles, beaucoup plus visibles pour les gens.
Effectivement, la COVID nous a confinés chacun chez soi, puis malgré tout, on avait besoin de services. Donc, comment faire pour obtenir des services lorsque tu n'as pas la capacité de te déplacer sur place? C'est là, je dirais que le bas blesse dans la façon qu'on avait ou qu'on a encore aujourd'hui à faire des transactions, peu importe avec quel service. Puis effectivement, je pense que le Québec avait démarré des travaux, mais ça prend énormément de temps à faire avancer la machine. Donc, je pense que ça, avoir ces discussions-là de manière récurrente sont importantes.
C'est quand même un sujet très complexe. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et de réflexion. C'est sûr que ça a dû accélérer depuis le confinement. Mais revenons peut-être un peu plus à la notion générale de l'identité numérique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects comme ça. Il y a des exemples nationaux comme l'Estonie, qui est souvent cité, qui était un des premiers pays qui a vraiment développé de façon massive ce système-là, mais ça s'est répandu aussi à travers d'autres pays.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il y a des articles sur Wikipédia qui listent tous les pays avec des systèmes similaires. Dans le fond, les systèmes d'identité peuvent servir à plusieurs sauces ou à plusieurs niveaux. Personnellement, moi, je connais un peu le système qui est en place en Belgique. J'ai parlé avec le président du chapitre là-bas il y a déjà plusieurs années, puis lui avait déjà une carte qui lui permettait de remplir ses impôts à chaque année, de voter, puis même d'aller emprunter des livres à la bibliothèque. Donc, c'est une gamme de services qui peuvent être offertes à la population, qui peuvent être, je vais dire, très critiques ou très importantes, comme le vote ou les taxes. Et de l'autre côté, peut être très anodin, comme l'emprunt d'un livre.
Justement, ça lève des points intéressants, parce que là, cette identité-là, puis l'article le mentionne entre autres, c'est justement le profiling qui peut être fait, toute cette façon où les gens peuvent consommer cette différente identité-là, parce que là, on met dans l'extrême, c'est comme si on se prenait avec notre passeport constamment et on remettait notre passeport à quiconque le demandait pour une prestation de service. Je pense que ce n'est pas exactement ça qui est représenté dans ce système-là.
Oui, exactement. Puis en fait, un des concepts qui a été intégré au Canada par le DIAC, c'est de dire, dépendamment avec quel organisme tu traites, tu ne voudras pas donner la même information. Donc, évidemment, tu ne voudras pas ou en tout cas, il n'y a peut-être pas un bénéfice à donner ta date de naissance lorsque tu vas à la bibliothèque emprunter un livre. Donc, tu peux, les systèmes d'authentification numérique modernes peuvent permettre de sélectionner qu'est-ce qu'on veut partager et avec qui. Puis j'irais même un peu plus loin, je dirais, pour combien de temps. Ça aussi, je pense que c'est important d'y réfléchir parce qu'on n'a pas... le concept de temps est important de nos jours. Par contre, c'est un concept que j'ai pas vu dans le DIAC. Puis peut-être une parenthèse, là, j'ai introduit le DIAC. C'est l'organisme, ou en tout cas, je devrais dire l'entreprise ou l'organisme sans but lucratif, en fait, qui a été mis en place par le gouvernement canadien pour mettre le cadre pan-canadien qui gouverne l'identité numérique. Donc, je sais pas, ça fait combien de temps que ça existe. Je pense que ça fait peut-être 5 ans, 7 ans, peut-être. Mais ils ont, en tout cas, ils ont développé un cadre qui est assez intéressant.
Ouais, ben, de toute façon, parce qu'il faut comprendre qu'au Canada, on est dans un modèle décentralisé. Là, même si la norme peut être établie ou convenue nationalement, c'est quand même les provinces qui sont sont responsables de mettre en œuvre ces systèmes-là. On le voit au Québec, on en a fait un. Je sais qu'en Colombie-Britannique aussi, ils en ont un déjà en œuvre, une identité numérique qui lui permet de consommer, disons, les services de l'État. Puis même à la limite, on pourrait dire que Click Secure au Québec est quand même un ancêtre plus tellement moderne maintenant, mais qui quand même représente cette identité numérique-là de point de vue de consommation de services du gouvernement, mais qui ne s'étend pas plus loin que ça. Où on a même le numéro d'assurance sociale au fédéral qui peut être assimilé à ces structures d'identité unique-là, malheureusement facilement à perdre, puis elle est maintenant dans toutes les fuites de données. Donc, on voit tout le problème qui est associé avec ça, où l'identité numérique nous est promis comme étant pas un système qui va nous amener dans les mêmes genres de problèmes.
Effectivement. C'est là que les principes de base de sécurité, confidentialité, intégrité, disponibilité deviennent très importants. Puis le modèle décentralisé a certains avantages par rapport au modèle centralisé, évidemment.
C'est ça. Puis là, si on va aller plus loin, là, justement, de ton expérience d'ailleurs, il y a une certaine forme de contrôle et de vérification qui est associée à ça, justement, pour éviter, pour cloisonner correctement ces éléments-là.
Oui, parce que tu ne veux pas centraliser l'identification puis l'authentification sur les mêmes systèmes, parce que ça pourrait générer de la surveillance de masse ou avoir... je vais dire un risque de compromission plus important justement d'informations personnelles. C'est important de bien séparer les concepts, de bien séparer les infrastructures qui supportent ces fonctions-là.
Ouais, d'ailleurs, c'est ça justement. Puis là, ça devient comme un trésor beaucoup plus grand si on est capable d'avoir accès à la base de données des identités numériques dont de tous les citoyens d'un pays ou d'une province. Je crois que les malveillants vont être très intéressés à y mettre la main dessus parce que là, c'est magique. Là. C'est comme trouver la base de données des NAS ailleurs que dans des fuites de données, d'aller directement à la source de ça. Fait que c'est sûr que c'est très important de mettre les mesures en place pour protéger ce genre de choses-là. Les avantages en termes de consommation, parce que là, on est habitué plus au niveau gouvernemental de l'utiliser, mais dans le privé, en quoi cela va donner des bénéfices d'avoir cette identité-là? Parce que c'est quand même au Québec, ça nous est vendu comme ayant des bénéfices aussi dans le privé.
Oui, bien en fait, il y a des brèches de sécurité quasiment quotidiennes qui sont annoncées puis qui impliquent des entreprises privées. C'est quasiment en fait ces systèmes-là pourraient être utilisés par les entreprises privées justement pour éviter d'avoir un amoncellement d'informations qui seraient mal gérées, pour éviter justement les fuites ultérieures. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui collectent ces informations-là pour des besoins de conformité. Mais après ça, ils en ont plus vraiment besoin. Une fois qu'ils ont fait la validation avec, par exemple, ta banque pour s'assurer que tu as les fonds pour acheter un bien ou quelque chose comme ça, ils ont plus besoin de ces informations-là. Donc, les systèmes numériques viennent, je vais dire, éliminer le besoin d'emmagasiner toutes ces données-là puisqu'ils font la validation en temps réel, finalement, puis ils reçoivent une espèce de tampon qui vient confirmer la validité de la personne, de l'identité, puis de l'information qu'ils recherchent, que ce soit, je vais dire, le background financier de la personne ou d'autres choses comme ça.
C'est sûr que c'est intéressant si on peut retirer de l'information des compagnies privées justement pour éviter des fuites dans lesquelles on voit énormément à l'heure actuelle. Cependant, j'ai un doute que ces entreprises-là vont être aussi diligentes que ça dans se débarrasser de l'information dans le surplus parce qu'on le voit jusqu'à présent, on est plus dans un concept de je dirais le terme anglais de hoarding, de ramasser à outrance l'information avant de vouloir s'en débarrasser. C'est bien sûr qu'au Québec, on a la PS64 qui s'en vient, qui va venir essentiellement limiter légalement ce genre de récolte-là, comme c'est déjà le cas aussi en Europe là, avec le RGPD, où c'est plus limité ce qu'on peut récolter et comment on traite l'information. Là.
Exactement. Puis en fait, le cadre qui a été mis en place par le DIAC vient dicter ces règles-là de dire « OK, tu ne peux pas collecter ou colliger telle chose. » C'est comme un, je dirais, quand tu regardes la documentation, c'est dans le fond, c'est des... C'est documenté un peu comme PCI DSS. Là. C'est des contrôles qui disent OK, tu dois faire ci, tu ne devrais pas faire ça, etc., etc. Donc, c'est des principes qui touchent la sécurité, évidemment, mais qui touchent aussi la vie privée en général. Puis, dans le fond, qui t'oblige ou qui oblige l'entreprise participante à demander, par exemple, le consentement, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais dès qu'une entreprise décide de participer dans cet écosystème-là, là, ils deviennent un peu plus encadrés. Donc, c'est ce que ça amène, je pense, comme différenciation par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que tu as raison que les entreprises ils collectent à outrance. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Puis plus ça va être facile à utiliser, plus les entreprises En fait, les utilisateurs vont faire en sorte que les entreprises n'auront pas le choix que d'aller vers ça, selon moi. Parce que plus il va y avoir d'utilisateurs, un jour, tu vas arriver chez une entreprise, puis tu vas dire, ah ben moi, j'ai telle carte, puis tu ne la prends pas. Non, ah ben je vais aller ailleurs.
Puis... Surtout dans un univers où on consomme encore plus numériquement qu'on le consommait avant, surtout... du moins au Québec, pour ce qu'on connaît, ça va forcer justement les entreprises. Ça peut leur forcer des bonnes décisions de sécurité. Ça ne peut qu'être favorable parce que ça va tous en bénéficier parce qu'on ne fera pas partie de la prochaine fuite d'informations. Et justement, nos informations vont être mieux protégées à l'avenir, soit-on là, que ça soit comme ça. On l'a vu en Estonie ou dans les pays où justement ces mesures-là sont un peu plus robustes. On n'entend pas beaucoup d'informations de fuites de données qui sont néfastes, comme on peut entendre les histoires désastreuses aux États-Unis et au Canada.
Effectivement. Puis ça amène, en plus de la sécurité qui est augmentée ou améliorée, on le mentionnait tantôt, là, c'est toute la convivialité que ça amène à obtenir des services rapidement. Puis ultimement, ça réduit les coûts aussi. Là. C'est clair. Pour l'entreprise, mais aussi pour l'usager.
Oui, puis de toute façon, puis je préfère m'authentifier qu'un système qui est justement avec mon identité provinciale dans ce cas-ci, que versus que m'identifier avec mon jeton Facebook, par exemple, comme on permet beaucoup. Parce que c'est un peu ces notions-là aussi qu'on apparaît, c'est de s'authentifier avec un fournisseur externe, mais là, le gouvernement deviendrait un fournisseur externe, donc nous permettrait de s'authentifier sur des sites sans que sûr que Facebook soit au courant de tout ce qu'on fait par Google ou peu importe le service d'identité qu'on consomme. Là, au minimum, ça va nous sauver de tout ça. En tout cas, j'espère que le gouvernement du Québec va être sage dans ses décisions de ce côté-là aussi. Ne pas commencer à faire du traçage de ce que les citoyens font, parce que c'est aussi l'appétit des gouvernements et des corps de police. C'est quand même non négligeable à vouloir tout tracer et à vouloir tout mesurer ce qui se passe.
Oui, ouais, effectivement. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont décidé d'aller vers un modèle décentralisé au Canada. C'est évident là, que tu ne veux pas donner à une entreprise commerciale toute l'information. Là. On pense à Facebook avec toutes les catastrophes qui sont survenues dans les dernières années avec la quantité de fuites de données qu'ils ont eues. Je pense que ça démontre là, clairement qu'il y a, premièrement, il y a eu des usages abusifs, mais qu'il n'y avait pas une sécurité convenable en arrière de tout ça. Tandis que là, avec les partenariats publics-privés qui mettent en place, en fait, ça segmente l'information, donc ça évite justement la surveillance de masse puis l'accumulation de données. Ça ne l'empêche pas. Puis comme dans toute industrie, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un mouvement de consolidation là, qui risque de survenir, mais pas à court terme. Fait que ça amène certains avantages. Le fait aussi qu'ils recherchent à innover dans ce secteur-là puis à amener des nouveaux joueurs en faisant ce partenariat public-privé, ça amène... je vais dire, de l'innovation ou des petites entreprises à développer des nouvelles solutions. Avec le cadre qu'ils ont mis en place, encore là, ça vient s'assurer qu'ils mettent des bonnes mesures pour protéger adéquatement les infrastructures. Parce que comme on le sait, les petites entreprises, toutes les entreprises maintenant utilisent le cloud d'une certaine façon ou des services cloud. Donc, il faut absolument que ces informations-là soient conservées de manière sécuritaire et protègent la vie privée des gens, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Là. On baigne là-dedans au quotidien. Là. Donc, c'est vraiment important, mais je pense que le modèle n'est pas parfait, mais les principes, les grands principes qui sont en arrière sont définitivement très bien et très intéressants.
C'est sûr que ça peut nous amener à progresser par rapport à la situation du numéro d'assurance sociale qu'on a présentement. Il n'y a personne qui va dire non à ça. Ça va déjà beaucoup plus évident, beaucoup mieux. Moi, j'ai pas mal fait le tour du sujet. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter?
Je pense que le site du DIAC contient vraiment beaucoup d'informations sur ce qui se fait au Canada. Fait que si les gens sont intéressés à en connaître un peu plus, il y a des vidéos, il y a des ressources sur le site. Fait que je les invite à aller voir ça. Sinon, je pense qu'on a fait un bon tour de roue sur ces systèmes-là.
Ben, c'est bien, ben merci beaucoup.
Merci à toi. Bye bye.